Afrique, les infos, à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel, bonjour à tous. La guerre du pétrole en Libye, la compagnie nationale du pétrole, NOC, basée à Tripoli, a fustigé aujourd'hui la décision de l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar, de remettre les principaux terminaux pétroliers du pays aux autorités parallèles, affirmant que toute exportation de leur part serait illégale. Les exportations par des institutions parallèles sont illégales et échoueront comme elles ont échoué par le passé, acclamé dans un communiqué Mustapha Sanalla, le patron de la NOC, en réaction à la décision du maréchal Haftar. En République démocratique du Congo, la mise en garde de l'UDPS contre un chaos électoral en gestation, deux jours après la convocation de l'électorat et à moins de 6 mois des scrutins. L'UDPS souligne que la machine à voter affiche un risque élevé de manipulation des résultats et que chercher à l'imposer à tout prix relève du cynisme politique, selon son président Félix Tshisekedi dans un communiqué. Les élections présidentielles, législatives et provinciales sont prévues le 23 décembre. La commission électorale a convoqué l'électorat samedi, rendant irréversible la tenue des scrutins, selon son président, et a ouvert le lendemain des bureaux de réception des candidatures aux provinciales. Au Congo-Brazzaville voisin, les acteurs de la société civile dénoncent de multiples pressions dont ils font l'objet, selon eux, de la part de la police et des autorités administratives. Certains se disent arrêtés ou interdits de tenir des réunions. À Brazzaville, compte rendu de notre correspondant Arsène Séverin.
Les organisations de la société civile nourrissent des craintes depuis la période post-électorale, redoutant parfois la réduction de leur espace d'expression. Un climat qui ne permet pas à certaines ONG de fonctionner normalement. C'est ce que décrit ici Roch Elogunzobo du Cercle pour les droits de l'homme et le développement.
Surtout depuis le référendum, depuis le changement de la constitution, nous sommes en face d'une machine non seulement de répression mais aussi de musulmans. Le gouvernement veut faire taire la société civile avec notamment les interdictions des réunions, même des réunions dans les salles. Et on se retrouve en face des situations où les défenseurs des droits humains, surtout, sont menacés, arrêtés. Ça a commencé avec les syndicalistes de l'université qui ont été arrêtés, certains torturés. Ensuite, nous avons eu des interdictions des réunions, des séminaires à Pointe-Noire.
Arrêtés en début mai, alors que s'ouvrait à Brazzaville le procès du général Mokoko, le coordonnateur national du mouvement, le ras-le-bol Franck Dila Malembe, dit ne pas être diminué par son emprisonnement.
Si les autorités ont voulu que cette maison d'arrêt soit pour nous un lieu où on aurait peut-être abandonné notre combat, non, c'est tout le contraire. Tous les prisonniers étaient avec nous, tous les prisonniers nous ont encouragés à continuer notre combat. Le combat reste le même, ce n'est pas un combat contre une personne, c'est un combat contre un système et le mouvement ras-le-bol continue et continuera à militer pour plus de justice sociale.
Enfin, 2017, une nouvelle loi visant le recadrage des activités des ONG est arrivée au Parlement. Fortuné Exon Animba, président du Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme, fait son analyse.
De ce que j'ai compris, c'est que les organisations de la société civile qui travaillent plutôt sur les questions de développement pensent que la loi de 1901 n'est plus adaptée aujourd'hui, mais les organisations qui travaillent dans le secteur des droits de l'homme, les organisations militantes, ont plutôt le sentiment, avec raison, que modifier cette loi peut restreindre la liberté d'association.
Les plaintes des ONG ne sont toujours pas comprises par certains juristes qui prêchent le respect de la législation. Trop de liberté tue la liberté, affirme le juriste Christian Bouanga.
Je pense que l'officier de police judiciaire qui procède aux arrestations connaît la loi. Donc une arrestation est une présomption, n'est-ce pas, de la commission par la personne qui en est l'objet d'une infraction. Il n'y a pas de discrédit a priori à jeter sur tout acte posé par l'autorité publique en République du Congo. Non, nous sommes dans un état organisé, il y a des lois que les gens respectent. Alors ceux qui pensent que le Congo est une poubelle, moi je les invite, n'est-ce pas, à prendre une autre nationalité.
Le Premier ministre Clément Mwamba a accepté d'ouvrir une discussion avec ces ONG, notamment dans le cadre du processus ITUE, où la contribution de la société civile est toujours très attendue. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Une délégation de responsables érythréens était attendue ce mardi à Addis Abeba pour une visite historique destinée à mettre un point final à la guerre et à des décennies d'hostilité entre les deux voisins de la Corne de l'Afrique. Inimaginable il y a quelques semaines, l'envoi de cette délégation a été décidé par le président érythréen Isaias Afewerki à la suite d'une ouverture du régime éthiopien et de son premier ministre réformateur Ahmed Abiy. L'Éthiopie et l'Érythrée se sont livrée de 1998 à 2000 à une guerre conventionnelle avec chars d'assaut étrangers qui a fait quelques 80 000 morts, notamment en raison d'un désaccord sur leurs frontières communes. On reste en Éthiopie. Le FBI va aider les autorités dans leur enquête sur l'attaque à la grenade qui a fait 2 morts samedi au sein d'une foule venue écouter le Premier ministre Morgan Girieck.
Le gouvernement américain a dit qu'il va envoyer des experts de la police fédérale américaine pour enquêter, a indiqué la radio-télévision Fana, proche du pouvoir. Un porte-parole de l'ambassade américaine en Éthiopie a confirmé l'information. Lundi, 4 personnes ont inspecté le site de l'explosion avec une voiture de l'ambassade américaine stationnée à quelques mètres de là. L'explosion a eu lieu samedi alors que M. Abiy venait d'achever son discours devant des dizaines de milliers de personnes dans le centre de la capitale. 2 personnes ont été tuées et plus de 150 blessées dans l'explosion et le mouvement de panique. L'attaque n'a pas été revendiquée. Selon Fana, 30 personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'attaque ont été arrêtées, ainsi que des responsables de la police. Depuis sa prise de fonction en avril, M. Abiy, 42 ans, le premier chef de gouvernement de l'ethnie Oromo, a libéré nombre d'opposants emprisonnés, mis fin à l'état d'urgence, opéré un important remaniement de responsables sécuritaires et a décidé de mettre un point final aux différents frontaliers avec l'Érythrée.
Le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar ont exprimé lundi à Khartoum leur espoir de mettre un terme à la guerre civile qui ravage leur pays depuis 2013. Il s'agit de la première rencontre entre les deux hommes dans la capitale soudanaise depuis le déclenchement du conflit. Les pourparlers suivent un sommet régional des États d'Afrique de l'Est parrainé par l'Éthiopie qui s'est achevé sans aucune percée alors que l'ONU a donné jusqu'à fin juin aux belligérants pour arriver à un accord politique viable en brandissant la menace de sanctions. Le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, est arrivé aujourd'hui à Pékin pour sa première visite en Chine dans un contexte de tensions croissantes, alors même que Washington compte sur le soutien du géant asiatique dans ses négociations avec la Corée du Nord. À Pékin, où il va séjourner jusqu'à jeudi, M. Mattis va rencontrer de hauts responsables du ministère chinois de la Défense. Le chef du Pentagone a indiqué à les journalistes l'accompagnant dans sa tournée de 4 jours en Asie qu'il voulait prendre la mesure des ambitions stratégiques de la Chine. Cette visite en Chine, la première d'un ministre de la Défense américain depuis 2014, intervient dans un contexte de tensions commerciales et militaires avec Pékin. Le responsable de l'Agence américaine des douanes et de la protection des frontières, Kevin McAleen, a reconnu hier que les autorités ne sont pas en mesure, pour le moment, de mettre en œuvre la politique de tolérance zéro de l'administration Trump, politique qui consiste à détenir et à poursuivre en justice quiconque entre illégalement aux États-Unis. Les autorités travaillent maintenant sur une politique qui permettrait les poursuites judiciaires sans séparer les familles. Le représentant des évêques au Nicaragua se rend aujourd'hui au Vatican pour rendre compte au pape de la crise dans ce pays où le dialogue entre gouvernement et opposition sur d'éventuelles élections générales anticipées semble piétiner et où les violences ont fait plus de 210 morts en 2 mois. Le cardinal Leopoldo Brunes, archevêque de Managua et président de la conférence épiscopale du Nicaragua, doit évoquer avec le pape François la situation douloureuse dans laquelle se trouvent actuellement les Nicaraguayens, a indiqué la conférence épiscopale. On termine ce journal avec du sport et du football, notamment le Mondial 2018. Uruguay, Portugal et Espagne, Russie constituent les premières affiches des 8e de finale. Les poules A et B ont donné leur verdict hier à l'issue des rencontres de ce groupe. Ce mardi donc, place aux poules C et D. Dans la poule C, la France, déjà qualifiée, rencontre le Danemark et l'Australie croise le Pérou qui joue pour l'honneur puisqu'il est déjà éliminé. Qui va donc accompagner la France en 8e de finale dans cette poule C? Ce sera l'enjeu des rencontres d'aujourd'hui dans ce groupe entre le Danemark et l'Australie. Les équations s'annoncent difficiles dans la poule D où la Croatie leader est déjà qualifiée. A priori, aucune équipe n'est éliminée. Rencontre décisive donc aujourd'hui. Islande-Croatie et le choc Argentine-Nigeria. Pour Audi, qui accompagnera la Croatie au 2e tour de ce mondial 2018 dans la poule D. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis. À tout à l'heure, dans 50 minutes pour un nouveau journal, et il vous sera présenté par Henri Francisque. Bon après-midi, partout où vous êtes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.